Je vous remercie pour cette invitation. Je vais parler en français. Je m'excuse avec vous pour les bêtises que je vais dire, soit concernant les contenus, soit concernant la forme de mon discours. En tout cas, la thèse que je vais discuter, c'est la thèse que c'est bien d'avoir un standard de culpabilité criminelle, comme la certitude au-delà de tout doute raisonnable. C'est un standard qui est utilisé dans plusieurs pays, plusieurs systèmes juridiques utilisent ces standards aujourd'hui, et les gens, normalement, pensent que c'est bien d'avoir ça. Donc, je vais discuter cette forme de certitude et, si possible, la bonté de ces standards pour la justice criminelle. Et en particulier, je vais discuter des objections qui ont été faites, contre ces standards par certains philosophes, en particulier par Larry Loudon, qui est un épistémologue américain, qui a critiqué l'usage de ces standards aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays qui l'utilisent. Et je vais aussi chercher à donner une lecture pragmatiste du standard, et je me demande si cette lecture pragmatiste du standard va sauver le standard lui-même des objections développées par Loudon et d'autres philosophes. Donc, certitude au-delà de tout doute raisonnable. Je vais partir par une considération très générale. On dit que c'est bien d'avoir ces standards parce que c'est un standard très, qui pose un niveau très haut de justification de l'accusation. Donc, dans un procès pénal, criminal, il faut avoir des preuves qui produisent une conviction des juges ou des jurés au-delà de tout doute raisonnable. Et ça, c'est bien, on dit, parce que c'est une garantie pour les individus, pour leur liberté, c'est une garantie contre les pouvoirs étatiques, disons, les pouvoirs de l'État de punir les individus. Donc, c'est bien d'avoir ça. Mais, comme je vais dire, du point de vue philosophique, il y a des questions à discuter, sans doute. Je vais commencer par un peu, disons, des comparaisons juridiques. J'ai fait un peu de droit comparé ici, et je vais partir avec les cas français. Je ne suis pas français, mais je me permets de dire quelque chose sur votre système juridique concernant cet aspect. Donc, les codes des procédures pénales en France, à l'article 427, dit la chose suivante. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. Ça, c'est important. Et les juges décident d'après son intime conviction. C'est l'idée de l'intime conviction. C'est le standard français. Ce standard a une histoire assez importante. Je ne vais pas discuter cette histoire aujourd'hui, mais c'est un standard qui vient, disons, de la Révolution française et qui est utilisé aujourd'hui quand même. L'idée de l'intime conviction du juge ou du juré. Voilà. Donc, si le juge ou juré est convaincu dans son intime que l'accusé est coupable, il va condamner l'accusé. Sinon, il va acquitter l'accusé. Mais attention, ce n'est pas uniquement une question d'état mental ou d'état d'esprit, parce que la loi dit aussi que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves, qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Donc, oui, intime conviction du juge, mais intime conviction fondée sur des preuves. Normalement, ce sont des preuves empiriques, comme des témoignages ou des expériences scientifiques ou des objets matériels qui sont, montrés au juge, qui, constituent des preuves contre l'accusé, etc. Des preuves, donc, qui fondent l'intime conviction, et des preuves qui sont présentes, qui sont apportées au cours du procès, au cours des débats. Donc, le juge ne peut pas décider sur la base de quelques éléments qu'il a, appris hors du procès. Il doit décider sur la base de ce qui est discuté dans les procès. Ce qui est apporté est contradictoirement discuté. C'est l'idée du contradictoire comme une garantie à nouveau pour, disons, pour l'accusé. Non? La possibilité de discuter, d'interagir de cette façon, selon le contradictoire, avec l'accuse. Ça, c'est le standard français pour les juges, et la même chose vaut pour la cour d'assises, qui est composée par des juges et des jurés. Voilà. Et ça, c'est la chose la plus intéressante, je pense, pour notre sujet aujourd'hui, parce que il y a un article du Code de procédure pénale 353 qui concerne les procédés de la cour d'assises et dit qu'avant que la cour se retire, les présidents de la cour, un juge, donnent lecture de l'instruction suivante. Ça, c'est très intéressant. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Donc, il ne faut pas dire pourquoi je me suis convaincu d'une certaine chose, par exemple, que l'accusé est coupable. Elle ne leur prescrit pas des règles. Non? Donc, il n'y a pas de règles à suivre. De quelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans les silences et les recueillements. Ça, c'est très beau. J'aime beaucoup. Les silences et les recueillements et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression en fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Hein? Pas de débat, pas de discussion, d'argumentation parmi les jurés, mais les silences et les recueillements, hein? c'est un peu religieux, c'est quelque chose non, de ce type. Ou peut-être c'est cartésien, je ne sais pas. Mais donc, ce n'est pas l'idée non, d'un débat parmi les jurés. On va discuter, on va faire du contradictoire parmi les jurés. Mais c'est quelque chose qui a à faire avec les silences, les recueillements et la conscience des jurés. Mais pas, disons, en faisant abstraction des preuves. Ce n'est pas légitime qu'un juré disent wow, « j'ai une intime conviction que le type est coupable, même s'il n'y a pas de preuves ». Ça, ce n'est pas légitime. Il doit avoir une intime connaissance basée, fondée sur les preuves. En fait, il doit voir quelle impression, en fait, sur la raison et peut-être aussi la conscience des jurés, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. À nouveau, l'idée du contradictoire entre, disons, accuse et défense. Voilà. Et finalement, c'est la fin de l'article, la loi ne leur fait que cette seule question aux jurés et juges aussi, qui renforme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Avez-vous une intime conviction? Ça, c'est le standard. Une intime conviction fondée sur les preuves rapportées, etc. Donc l'idée, du point de vue juridique, c'est que selon ce principe, les juges ou jurés décident librement. Il n'y a pas de règles qui, disons, qui déterminent dans un certain sens les résultats, disons, du procès. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de système de preuves légales. Donc la décision va être libre selon les éléments de preuves qui sont présentés au juge au juré. Les juges au juré n'est pas tenu par une preuve plutôt qu'une autre, c'est-à-dire il n'est pas tenu par un témoignage ou une preuve scientifique plutôt que l'autre. Il n'y a pas de règle là-dessous. Et ça va, ça c'est important parce que c'est au contraire de ce qui arrivait avant la Révolution française, disons dans les droits, les droits précédents, il y avait un catalogue, disons, des moyens de preuve et une détermination des valeurs de chaque type de preuve. Donc, s'il y avait un témoignage contre l'accusé, ça avait une valeur d'un certain type. S'il y avait un objet qui était trouvé dans la maison de l'accusé, ça avait une déterminée valeur. Et à la fin, le juge était quelqu'un qui devait faire une sorte de calcul arithmétique des valeurs des preuves et donc décider après le calcul. Non? Et le calcul était réglé par les droits. Donc, il y avait un système qui était appelé des preuves légales. Hein? Chaque type de preuve avait une valeur déterminée par la loi et les juges devaient simplement, dans un certain sens, faire les calculs. Ce n'est pas le cas avec le système de l'intime conviction, hein, où la décision est libre. Il n'y a pas de système légal d'évaluation des preuves et de la détermination de la décision finale. Mais, comme je viens de dire, l'intime conviction doit être fondée sur les preuves. Pour vous donner un exemple, il y avait une règle très ancienne selon laquelle si deux témoins, indépendamment l'un de l'autre, témoignaient contre l'accusé, ça était considéré comme suffisant pour condamner l'accusé. Ce n'est pas le cas avec ce système. C'est le juge ou le jury qui doit évaluer les témoignages comme tout autre type de preuve et décider selon son intime conviction. Voilà. Avec des exceptions, il y a quelquefois des exceptions. Par exemple, il y a certains procès-verbaux dressés par les forces de l'ordre qui, dans un certain sens, déterminent un certain résultat. Mais à part ces exceptions, aucune preuve n'a une valeur plus importante qu'une autre. C'est le juge ou juré qui va déterminer ça. Okay? Donc, critique de l'intime conviction. Ça, c'est la critique standard qui est aujourd'hui, que vous trouvez aujourd'hui dans la littérature sur ces questions. C'est un critère subjectif. C'est purement, certains disent, c'est purement subjectif. C'est un critère mentaliste, disons, parce que l'idée de l'intime conviction fait référence à, disons, à l'esprit des juges ou des jurés, mais pas aux preuves directement. Hein? Donc, c'est une question de l'état mental du décideur. Si c'est une forme de certitude, c'est uniquement une forme de certitude subjective. Donc, il n'y a pas de contrôle de la manière dont les juges ou jurés évaluent les preuves et décident les cas. Vous vous souvenez de la formule que je viens de lire. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la Cour des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles. Donc il n'y a pas de contrôle de la manière dont les décideurs arrivent à leur détermination finale. Et a fortiori, il n'y a pas d'évaluation épistémique. On ne sait pas pourquoi finalement les juges ou jurés ont décidé que l'accusé est considéré comme coupable. On ne sait pas. Hein? C'est uniquement quelque chose qui a à faire avec la conscience ou la raison des décideurs. Mais c'est un procès fondamentalement obscur. On ne sait pas. C'est une sorte de black box. On ne sait pas ce qui arrive dedans la black box. Ça, c'est la critique. Je pense que c'est pas une critique entièrement charitable, parce que c'est vrai que les critères sont subjectifs et mentalistes d'un certain côté, mais de l'autre côté, c'est, comme je viens de dire, un critère qui demande aux décideurs de former leurs intimes convictions sur la base des preuves. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas légitime de dire « je suis convaincu que le type est coupable même s'il n'y a pas de preuve parce que j'ai une intime conviction ». Ça, ce n'est pas légitime, on ne peut pas le faire. Okay? Donc, ce n'est pas uniquement une question, disons, mentale ou de certitude subjective sans raison. En tout cas, pour ceux qui pensent que le critère de l'intime conviction n'est pas bon, parce que ce n'est pas une forme de garantie, ce n'est pas une forme de protection de la liberté des individus, c'est mieux, il vaut mieux d'utiliser les standards anglo-américains de la certitude au-delà de tout doute raisonnable. Ça, c'est les standards classiques, typiques des pays anglo-saxons. Aussi l'Italie, aussi le Chili et d'autres pays qui ne sont pas anglophones ont accepté ces standards aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui ont pris ces standards parce que bon, l'idée de l'intime conviction, ce n'est pas satisfaisante, c'est trop subjectif, etc. Donc aujourd'hui, ces standards sont utilisés pas uniquement en Angleterre et aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays avec des traditions juridiques différentes. Ça, c'est les standards. Les standards ont une histoire assez intéressante. La formulation, disons, la plus claire du standard date du XVIIIe siècle en Angleterre. Ça vient de cette époque. L'idée, c'est que l'accusé peut être condamné seulement si la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Beyond a reasonable doubt, c'est la formule anglaise. Ou BARD, c'est l'acronyme. Beyond a reasonable doubt. Donc, quand il y a un doute raisonnable quant à la culpabilité, il faut acquitter l'accusé, évidemment. Sinon, on peut les condamner. C'est intéressant de remarquer la raison historique du standard, parce qu'aujourd'hui, on pense à ça comme une forme de protection des individus qui sont accusés d'un crime. Hein? Mais la raison historique est différente. C'est très intéressant. La raison historique est peut-être liée à une certaine forme de, disons, de mentalité religieuse ou à certaines questions théologiques. L'idée, c'était de protéger la conscience et l'âme des jurés de la condamnation d'un innocent. Ça, c'était le problème. Parce que c'est pas bien de condamner un innocent, évidemment. Donc, les jurés qui avaient un esprit religieux étaient préoccupés par leur âme. Parce que condamner un innocent, c'est quelque chose de très grave. On dit, les historiens, qu'à l'époque, beaucoup des jurés avaient la tendance à acquitter les accusés, même s'il y avait des preuves, parce qu'ils pensaient, oui, je ne suis pas sûr que ce type, finalement, soit innocent. Donc, si je vais condamner quelqu'un qui est innocent, mon âme va être punie par Dieu. Donc, peut-être c'est mieux d'acquitter ce type. Voilà. Donc, c'était pour protéger les jurés et sa conscience religieuse qui a été introduite, que cette règle a été, ce standard a été introduit. Donc, les standards disaient, tu peux être tranquille parce que si il y a des preuves, donc ce n'est pas raisonnable de penser que le type est innocent, tu peux les condamner. Et si malheureusement, en fait, il était innocent et tu l'as condamné, bon, ton âme va être sauvée quand même parce que tu as fait quelque chose qui était, disons, raisonnable, qui était de l'ordre de ce qui est raisonnable pour les êtres humains. Okay? Ça, c'est la raison historique du standard, selon certains historiens. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de protéger les accusés, pas les jurés. Okay? Donc, il y a une raison qu'on peut qualifier comme éthico-politique, c'est l'idée de protéger la liberté des individus, car il vaut mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent. Ça, c'est appelé souvent « the Blackstone ratio ». Dans un domaine comme celui du procès pénal ou criminal, les faux positifs sont pires que les faux négatifs, évidemment. Donc, c'est mieux d'acquitter un coupable que de condamner un innocent. Et ça, c'est la raison du standard, la protection des individus, de leur liberté contre le pouvoir étatique, etc. Le standard est un standard qui a été utilisé en Angleterre et il a été utilisé aussi aux États-Unis et en particulier en 1970, la Cour suprême des États-Unis a dit que la Constitution américaine exige les reasonable doubt standards. Donc, c'est quelque chose qui va être lié dans la Constitution, même si la Constitution ne parle pas, explicitement de ça. On peut lire la Constitution de façon à entendre la Constitution comme impliquant un standard pénal de ce type. C'est une interprétation qui a été critiquée, mais je ne vais pas rentrer dans cela. Chose intéressante, dans plusieurs États, le juge doit clarifier aux jurés les contenus de la formule, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un doute raisonnable ou d'avoir un doute qui est déraisonnable. Parce que les jurés parfois demandent aux juges, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un doute de ce type, raisonnable ou déraisonnable. Et donc les juges, dans certains États des États-Unis, doivent donner des instructions aux jurés. Dans des autres États, les juges ne doivent pas. Les juges doivent simplement dire aux jurés, ça c'est le standard, donc vous allez décider selon votre, rationalité, votre capacité de considérer les preuves, etc. Mais je ne vais pas donner des spécifications sur ce que ça veut dire d'avoir un doute raisonnable ou déraisonnable. Donc, sur cette base, il y a une critique philosophique du standard de doute raisonnable qui a été développé par Larry Laudan aux États-Unis et en Europe aussi, par exemple par Jordi Ferrer en Espagne, Michele Taruffo en Italie, parmi d'autres. Larry Laudan a dit la chose suivante. Le standard est subjectif, même si les standards ont l'impression d'être, disons, une garantie pour l'accusé, et une garantie plus importante, disons, que l'idée de l'intime conviction, selon Larry Loudon, il est subjectif, il est épistiquement insuffisant, il dit qu'il est obscur, incohérent et confus. Donc il n'y aurait pas de progrès de l'intime conviction au doute raisonnable, et les manières de clarifier les standards ne sont pas satisfaisantes. L'analyse de Loudon porte sur les manières dont les juges ont cherché de clarifier les standards aux jurés dans les États qui permettent de faire ça. Et vous avez ici les cinq manières principales avec lesquelles les juges ont cherché d'expliquer aux jurés qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un doute raisonnable ou d'être dans un état de doute déraisonnable, c'est-à-dire d'être dans un état, dans un barred état. Les manières sont les suivantes. 1. Barthes comme sécurité adéquate aux décisions importantes qu'on prend dans la vie. 2. Absence de doute qui fait hésiter une personne prudente. 3. Firme conviction de culpabilité. 4. État de doute déraisonnable. Et 5. Haute probabilité de culpabilité. Ça sont les cinq manières principales, selon Loudon, de clarifier le contenu du standard, beyond reasonable doubt. Je vais dire quelques mots là-dessous. Sur la cinquième manière, bon, il y a un débat assez compliqué sur les probabilismes dans ce contexte. Il y a des gens qui pensent que les bar standard équivaut à une probabilité de 0.90 ou plutôt 0.95 ou 99, je ne sais pas. J'ajoute seulement que c'est très difficile de demander aux jurés de faire des calculs bayésiennes ou des évaluations des probabilités de façon sophistiquée dans un contexte comme celui-ci. Donc je pense que ça, ce n'est pas une manière satisfaisante de clarifier le contenu du standard. Si on utilise la manière 4, on reste presque à une tautologie, je pense. Non? L'idée d'être dans un barred état, beyond reasonable doubt, signifie être dans un état où le doute est déraisonnable. Oui, bien sûr, mais ça, ce n'est pas un gros progrès du point de vue de la compréhension du standard. 3. Firme conviction de culpabilité. Loudon dit que ça, c'est pas de progrès par rapport à l'intime conviction. C'est juste l'idée subjective d'avoir une conviction que l'accusé est coupable. Mais pourquoi on ne sait pas. Les manières 1 et 2 sont peut-être plus intéressantes du point de vue pragmatiste, parce que ce sont des manières de lier l'état mental ou la conviction ou la croyance du juge ou juré avec la dimension pratique, c'est-à-dire des actions qui pourraient être liées à la croyance ou à l'état mental en question. En fait, si vous considérez ça, vous voyez qu'il y a quelque chose de pratique là. Sécurité adéquate aux décisions importantes dans la vie de quelqu'un ou absence de doute qui fait hésiter une personne prudente quand il doit agir d'une certaine manière. Donc ça, c'est intéressant, je pense, parce que ça a à faire avec les pragmatistes, l'idée pragmatiste de du lien entre croyance et action. Et donc, je vais brièvement commenter ces deux manières d'interpréter les standards du doute raisonnable. Bon, en principe, on sait que le doute exige des raisons, comme la croyance exige des raisons. Ça, c'est l'idée de Peirce, ça, c'est l'idée de Wittgenstein, comme Claudine Tiercelin a bien montré. Donc, finalement, avoir un doute raisonnable, c'est avoir un doute qui a une raison et pour laquelle on peut expliciter une raison. Et avoir un doute déraisonnable, c'est avoir un doute qui n'a pas de raison. Okay? Mais ça, c'est vrai, mais à la fois, c'est un peu tautologique, comme on vient de dire concernant la manière 4 de spécifier les standards. Donc, c'est vrai que la certitude au-delà de tout doute raisonnable, c'est la certitude caractérisée par le fait qu'il y a seulement des doutes déraisonnables, mais finalement, on veut savoir qu'est-ce qu'un doute déraisonnable. Et je pense que là, il y a deux façons de réfléchir. On peut chercher à spécifier l'idée en travaillant sur les types de raisons épistémiques qui sont en jeu dans un contexte de ce type, ou bien chercher à introduire dans le discours aussi des considérations pratiques. Et évidemment, la deuxième voie, disons, est la voie pragmatiste, est la voie où on cherche de lier les croyances des décideurs, juges, jurés, avec leur disposition à agir. L'une des façons de clarifier les standards est d'en donner une lecture pragmatiste, comme je viens de dire, qui rend compte non seulement des croyances du décideur, mais aussi des actions qu'il est prêt à faire. C'est l'idée que Pascal Engel vient de discuter aussi, d'Alexander Bain de Peirce, que la croyance est une disposition à agir, même si il vaut mieux de dire que l'action est expliquée non seulement par les croyances, mais par la combinaison, la conjonction des croyances et désirs. Ça, c'est l'idée pragmatiste de base. Et sur ça, je voudrais ajouter l'idée qu'il faut avoir des raisons pour avoir des croyances, parce qu'on vient de dire que la croyance, comme les doutes, exige des raisons. Et la chose que je voudrais proposer, c'est qu'ici, on a affaire avec des raisons épistémiques parce qu'on a affaire avec des preuves qui sont discutées, qui sont rapportées dans les débats contre l'accusé ou à sa défense. Donc il y a des raisons épistémiques en jeu ici, mais je pense que le niveau de la justification épistémique est déterminé selon l'enjeu pratique. Donc il y a ce type de lien entre les deux choses. Les seuils de la justification épistémique est variable et cette variabilité est expliquée par la différence de l'enjeu. Par exemple, dans un procès civil, vous avez un standard de preuve qui est inférieur à celui du reasonable doubt. Vous avez l'idée de la preponderance of the evidence. C'est l'idée donc que en termes de probabilité, il suffit de prouver sa prétention au 51% de probabilité pour gagner. Ça, ce n'est pas le cas dans les procès pénals, où, étant donné l'enjeu plus important, on requiert un niveau de justification plus important. Donc, le seuil pénal ou criminel est plus exigeant si les conséquences sont plus importantes, comme en fait il est le cas dans les procès pénals. De ce point de vue, peut-être on peut imaginer un concept de certitude pragmatiste comme le seuil de justification épistémique adéquate à l'enjeu pratique. Donc, vous voyez que là, il y a les deux choses qui se lient. L'idée de la dimension cognitive ou épistémique et celle pratique qui sont liées de cette façon. Mais je dis aussi que il reste pas mal d'objections à propos de ces standards et de cette manière de concevoir l'idée du doute raisonnable. Par exemple, certaines objections qui ont été développées par Loudon, à nouveau, l'idée que finalement le problème de la subjectivité n'est pas complètement résolu parce que il peut y avoir de la subjectivité concernant ce qui est adéquat et des attitudes, la subjectivité des attitudes face au risque. Et à propos de la manière une de déterminer un standard, on peut dire que souvent les décisions importantes dans la vie sont prises en condition d'incertitude. Donc, ce n'est pas très informatif de dire que les bar standards et la sécurité adéquate aux décisions importantes, parce que souvent dans la vie, on prend des décisions importantes avec des conditions d'incertitude. Et pour Laudan, ce n'est pas aussi très intéressant de dire que le bar état est un état d'absence de doute qui fait hésiter une personne prudente, parce que selon Laudan, la personne prudente a toujours quelques doutes. Donc finalement, on n'est pas sûr sur les contenus du standard. On sait que c'est un standard très exigeant, il requiert un niveau de justification épistémique assez haut, mais c'est difficile de spécifier exactement son contenu. Alors, je m'arrête ici. Merci.